Livre troisième. Prospérité. Chapitre 1. Un bon mariage. Dix années avaient passé légèrement sur la tête de Sheldon. Il était de ces hommes que le temps traite avec indulgence. Ses beaux yeux noirs n'avaient rien perdu de leur éclat, et ses dents avaient conservé leur blancheur. Son teint, qui avait toujours été pâle, l'était peut-être un peu davantage, et un cercle bistré qui encadrait ses yeux en augmentait encore l'éclat. Tout compte fait, le Sheldon d'aujourd'hui était tout aussi bel homme que le Sheldon que nous avons connu il y a 10 ans. Depuis ce temps, le dentiste s'était fait dans sa tenue, son costume, ses allures, un style plus pur, plus élevé. C'était toujours un homme éminemment honorable. Ce n'était pas un patricien ni un dandy, mais il semblait appartenir à cette classe d'hommes par lesquels sont défendus les remparts fameux de la respectabilité anglaise. Sheldon avait renoncé à ses travaux. Depuis longtemps, il avait cédé tous les accessoires de son art à un jeune aspirant dentiste, avec sa respectable maison, sa clientèle et son mobilier. Un an après le décès d'Hallyday, sa veuve inconsolable avait accordé sa main à son ancien amoureux. Non qu'elle eût oublié son premier mari ou qu'elle se montrât ingrate envers sa mémoire, mais simplement parce qu'elle n'avait pas pu trouver aucune bonne raison à s'opposer aux demandes réitérées et pressantes de Sheldon. « Je vous avais bien dit qu'elle n'oserait pas vous refuser », avait dit George lorsque le dentiste était revenu de Barlingford où Georgie demeurait avec sa mère. Philippe avait d'abord répondu d'une manière ambiguë aux questions de son frère. Mais il avait fini par avouer qu'il avait demandé en mariage Mrs. Hallyday et que sa demande avait été favorablement accueillie. « Cette manière d'apprécier la chose n'est pas très flatteuse pour moi », avait-il dit en se redressant avec une sorte de dignité. « Depuis longtemps, Georgie et moi éprouvions de l'attachement l'un pour l'autre, et il n'y a rien d'étonnant si vous vous mariez maintenant que Tom n'est plus. Pauvre vieux Tom !» « Lui et moi étions de si bons camarades, » poursuivit Georges. « J'ai toujours eu dans l'idée que ni vous ni l'autre médecin n'avez bien compris sa fièvre. Ce n'est pas du reste un agréable sujet de conversation pour la circonstance. C'est pourquoi je me tais et me borne à vous complimenter, Philippe. « C'est un bon mariage que vous allez faire là, » avait ajouté Georges en regardant son frère avec un léger tremblement dans la voix indiquant que l'eau lui venait à la bouche en pensant à la bonne fortune de celui-ci. « C'est une très heureuse chose qui vous arrive, mon cher, n'est-ce pas ? » avait-il insisté, en voyant que son frère ne paraissait pas disposé à s'étendre sur le sujet. « Vous connaissez assez bien mes affaires pour savoir que je n'aurais pu épouser une femme pauvre, et que depuis longtemps vous éprouviez le besoin d'en épouser une riche, » avait renchéri son frère. « Georgie a quelques centaines de livres et quelques milliers, Philippe !» avait fait observer avec une souriante vivacité le jeune Sheldon. « Voulez-vous que j'en fasse le compte ?» Georges était toujours disposé à compter toutes choses et n'eût pas reculé devant l'addition des étoiles s'il y eût trouvé quelque profit. « Il y a d'abord le produit de la vente de la ferme de Highley, 12 350 livres. Je le tiens de la bouche du pauvre Tom lui-même. » Puis la petite propriété de Sheepfield, disons 750 livres. Disons 700 pour laisser une marge. Et maintenant, les assurances. 3000 livres à la compagnie L'Alliance, 1500 au Phoenix, 500 à la compagnie de Suffolk. Tout cela, mon cher, fait un total de 18 500 livres. C'est un joli denier à recueillir, juste au moment où les affaires étaient mauvaises. « Certainement, » avait répondu Sheldon l'aîné, qui ne paraissait nullement satisfait de voir ainsi énumérer la fortune de sa future femme. « Sans doute, je dois me considérer comme chanceux. » « C'est ce que ne manqueront pas de dire les habitants de Barlingford lorsqu'ils apprendront la chose. »« J'espère, » que vous n'oublierez pas la promesse que vous m'avez faite.
Quelle promesse ?
Que si jamais une bonne fortune vous arrivait, j'en aurai ma part. Eh bien, Philippe.
Sheldon se prit le menton et se mit à considérer le feu en réfléchissant.
Si ma femme laisse à ma disposition une partie de son argent, vous pouvez compter que je ferai pour vous ce que je pourrai, avait-il dit après un moment.
Non, Philippe, lorsqu'un homme dit qu'il fera ce qu'il pourra, c'est le signe certain qu'il a l'intention de ne rien faire. Avec des si et des mais, voyez-vous, l'amitié fraternelle n'est qu'un mot.
Si votre femme laisse quelque argent à votre disposition, s'écria l'avocat en s'efforçant de rire.
C'est une plaisanterie par trop forte.
Voudriez-vous me faire croire que la pauvre petite conservera l'administration de sa fortune lorsqu'elle sera votre femme, et que vous souffrirez que ses amis prennent avant le mariage des dispositions en conséquence ?
Allons donc, Philippe, vous n'êtes pas assez niais pour avoir si mal dressé vos plans.
Qu'entendez-vous par « dresser mes plans » ?
C'est un point que nous ne discuterons pas maintenant, Philippe, avait répondu froidement l'avocat.
Nous nous comprenons parfaitement, sans qu'il soit besoin d'entrer dans d'ennuyeux détails. Avec cette bonne fortune, j'espère que vous tiendrez votre parole.
« Et qui vous dit que je ne veuille pas la tenir ?» avait demandé Philippe comme froissé.
« Vous n'avez pas besoin de vous mettre tant à crier. Pourquoi prendre le ton d'un voleur de grand chemin ? Mettez-moi le pistolet sur la gorge pendant que vous y êtes. »
Les deux hommes échangèrent un regard. Ils avaient l'habitude de mesurer les choses et les hommes à un point de vue éminemment pratique. À ce moment-là, tous deux se toisèrent à leur véritable taille. Cela fait, ils se quittèrent le plus cordialement du monde, avec force protestation d'amitié, de bon vouloir, etc.
George retourna à sa chambre poussiéreuse de Gray's Inn, et Philippe se prépara à retourner à Barlingford pour conclure son mariage avec Georgina. Depuis 9 ans, Georgie était donc la femme de Philippe, et elle n'avait eu aucune raison de se plaindre de son deuxième choix. Sa façon de comprendre la vie s'était sensiblement modifiée sous l'influence de son nouveau mari. Elle ne considérait plus un dog-cart à grandes roues et une jument ombrageuse comme la plus haute expression de la félicité terrestre, car elle avait maintenant à son service une calèche à 2 chevaux avec un petit groom pour ouvrir la portière et marcher derrière ses talons lorsqu'elle faisait des visites ou courait les magasins. Au lieu de la vaste et vieille maison de ferme de Highley, avec ses couloirs mystérieux et les impénétrables obscurités de ses armoires, elle occupait une élégante petite maison à Bayswater, dans laquelle les yeux fatigués par le soleil auraient vainement cherché un peu d'ombre pour se reposer. La fortune de Sheldon avait prospéré depuis le mariage avec la veuve de son ami. Pour un homme d'un esprit aussi pratique et d'un caractère aussi énergique, 18 000 livres étaient un solide point de départ. Son premier soin avait été de se débarrasser de tous ses anciens engagements et de tourner le dos à sa respectable maison. Les premiers mois de son mariage avaient été consacrés à un voyage sur le continent. Il rechercha de préférence les villes commerciales, industrielles. Il fréquentait les tables d'hôtes, les hôtels fameux, ceux où les hommes d'affaires se rencontrent et prennent rendez-vous. Georgie, de son côté, était enchantée de la vie que son mari lui faisait mener sur le continent. Elle n'avait reçu qu'une demi-instruction, n'avait jamais rien vu de sa vie, elle était émerveillée comme un enfant, tout excitait en elle un enthousiasme égal, les bijoux du palais royal comme les bonbons fantastiques de Berlin. Son mari était très bon pour elle, mais à sa façon absolument différente de celle du doux homme. Il réglait sa vie d'après ses propres convenances, mais il lui achetait de très belles robes et la prenait toujours avec lui lorsqu'il courait la ville en calèche de louage. Il lui arrivait souvent de laisser Georgie et la calèche au coin d'une rue ou devant la porte d'un café, quelquefois pendant 1 heure. Elle ne tarda pas à s'y habituer. Elle se munit d'un roman qui, dans ses conjonctures, l'aidait à passer le temps. Si Tom l'eût laissée toute seule en pleine rue, elle n'eût pas manqué de se mettre l'esprit à la torture pour découvrir la trahison de son mari, et ses soupçons jaloux se seraient tout de suite éveillés.
Mais Sheldon avait je ne sais quelle sévère gravité qui rendait impossible les suppositions de ce genre. Chacune de ses actions semblait poursuivre un but sérieux. Sa vie, dans son ensemble, apparaissait comme une chose réglée, immuable. Et sa femme se soumettait à lui, comme elle se fût soumise à l'action de quelque puissante machine, compliquée et terrible, telle que la science moderne a su en construire. Elle lui obéissait aveuglément et était heureuse de se plier à ses désirs. Elle sentait vainement, d'ailleurs, qu'essayer de lutter contre cette volonté eût été peine perdue. Peut-être y avait-il même quelque chose de plus dans son esprit, comme la demi-conscience d'un mystère effrayant qui se dérobait comme un fantôme dans l'ombre du passé. À cet égard, elle avait peur de sa propre impression et se refusait à l'examiner de trop près. C'était une craintive petite femme, elle se jugeait assez heureuse dans le présent et ne se souciait pas de soulever les voiles de l'avenir ou d'interroger le passé. Elle n'imaginait pas qu'il y eût de par le monde des gens assez vils pour supposer que Sheldon l'avait épousée par amour de ses 18 000 livres. Elle savait que certains amis prudents, certains parents, avaient levé les mains et froncé les sourcils en apprenant qu'elle s'était mariée en seconde noce sans avoir fixé un douaire. Un vieil oncle lui avait même demandé si elle ne craignait pas que cette folie fît mourir son père de chagrin. Georgie avait haussé les épaules en entendant les remontrances de ses amis. Elle trouvait que l'on était cruel à son égard et qu'il était un peu fort qu'elle ne pût, une fois dans sa vie, faire sa volonté. Quant au douaire dont on parlait, elle protesta avec indignation. Elle n'avait pas des sentiments assez bas pour traiter son futur mari comme un escroc. Ce serait le donner à penser que de prendre tant de précautions pour mettre son argent en sûreté, etc. Puis, comme une année s'était à peine écoulée depuis la mort de ce pauvre Tom, elle avait tenu à se marier sans bruit, sans cérémonie, incognito. Enfin, elle avait trouvé sans raison pour ne pas se soumettre à cette clause étrange, par laquelle une somme d'argent est si parfaitement immobilisée que son propriétaire même ne peut y toucher si peu que ce soit, sans tomber sous le coup de la loi qui punit les maraudeurs. George avait été bien près de la vérité lorsqu'il avait dit à son frère que Mrs. Halliday n'oserait pas refuser sa main. Cette douce petite femme aux beaux cheveux blonds et à la gracieuse figure avait une peur terrible de son ancien amoureux. Eût-elle eu en perspective la misère, le chagrin, qu'elle l'eût épousée de toute façon, tant était directe et puissante l'influence qu'il exerçait sur elle. Mais Georgie n'avait pas conscience de cette dépendance. Cet état de choses ne lui était pas pénible. Peut-être se trouvait-elle aussi heureuse qu'il était dans sa nature de l'être, car elle n'avait aucune disposition exaltée ni pour le bonheur ni pour le chagrin. Elle éprouvait du plaisir à avoir pour époux un bel homme de belle tournure et de tenue parfaite. La seule idée qu'elle se faisait d'un mauvais mari était celle d'un homme rentrant tard, venant de lieux mystérieux et malhonnêtes, fréquentés par des êtres non moins mystérieux et tout aussi peu honnêtes. Comme Sheldon sortait rarement après dîner, qu'il était le plus sobre des hommes, elle le considérait naturellement comme le véritable modèle de la perfection conjugale. Et c'est ainsi que la vie domestique s'était écoulée assez doucement pour Sheldon et sa femme pendant les 9 premières années de leur mariage. Quant aux 18 000 livres qu'elle avait apportées à Sheldon, Georgie ne le questionna jamais à ce sujet. Elle jouissait d'un luxe qu'elle n'avait jamais connu du temps de Tom, et elle acceptait avec une joie facile ce bien-être. D'après son propre aveu, Sheldon avait triplé la fortune de Georgie depuis les 9 années qu'elle était entre ses mains. Comment le malheureux chirurgien-dentiste avait-il tout à coup pu devenir un opulent spéculateur? C'était un problème trop compliqué pour que Georgie entreprît d'en chercher la solution. Elle savait que son mari avait un intérêt dans certaines charges d'argent de change et que cette association lui avait coûté quelques milliers de livres de l'argent de Tom. Elle avait eu connaissance de quelques arrangements préliminaires ayant pour objet de s'assurer l'admission de son mari comme membre d'une mystérieuse association et que l'argent de Tom Halliday avait été la semence qui avait produit la récolte. Mais pour elle, tout se résumait en un seul mot, son mari avait réussi. Il est peut-être plus facile de réussir à la bourse que d'amener un nombre donné de personnes à venir dans une rue écartée se faire arracher les dents par un inconnu. Qui sait si l'agent de change n'est pas, à l'instar du poète, un être doué et inspiré par la nature, un produit d'instinct spontané qui se développe d'eux-mêmes sans le secours de l'éducation. Il est certain que les divins effluves émanant du dieu Plutus semblaient être descendus sur Sheldon. Car il était entré à la bourse comme un étranger naïf, et il s'y était fait sa place parmi les hommes dont la vie entière s'était écoulée dans les comptoirs de la City et des environs. Mrs. Sheldon se contentait de comprendre en gros les succès de Sheldon, et pas davantage, quoique sa fille approchât de l'âge où elle ne tarderait pas à avoir besoin d'une dot sur la fortune de sa mère. Le pauvre Tom avait pleine confiance dans la femme qu'il aimait. Il n'avait fait son testament que par mesure de précaution, à une époque où il croyait avoir devant lui 50 ans de force et de vie. Sheldon avait eu de son mariage 2 enfants, qui, tous deux, étaient morts. Ça avait été un coup cruel pour cet esprit fort. Il n'avait cependant pas versé une larme, ni perdu une heure de son travail au profit de son chagrin. Georgie avait juste assez de pénétration pour s'apercevoir du désappointement de son mari de ne pas avoir un autre bébé pour remplacer les 2 faibles créatures qui, malgré des soins assidus et répétés, n'avaient pu vivre. « Il semble qu'il y ait une malédiction sur mes enfants », avait-il dit une fois avec amertume. Ce fut la seule occasion dans laquelle sa femme l'entendit se plaindre de sa mauvaise fortune. Cependant, un jour où il avait été particulièrement heureux dans une spéculation où il avait réalisé ce que son frère appelait le plus beau coup de filet de sa vie, Philippe était revenu à la maison de très mauvaise humeur, et pour la première fois depuis son mariage, Georgie l'avait entendu citer un des passages de l'Écriture. « Acquérir des richesses, murmurait-il en arpentant sa chambre, acquérir des richesses et ne pas savoir seulement à qui on les laissera. » Sa femme comprit qu'il pensait à ses enfants. Pendant leur courte existence, l'agent de change avait fréquemment parlé de progrès à accomplir dans l'art de s'enrichir, et c'était surtout la fortune de ses enfants qui le préoccupait. Aujourd'hui, il n'était plus là. Sheldon mettait toujours la même ardeur à s'enrichir, il jouissait encore de ses succès rapides. Mais pour lui, un intérêt supérieur s'était dérobé à la direction de sa vie. Et il n'entendait plus le son de l'or avec la même plénitude de volupté.